À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir Serge,
bonsoir
Laurent, bonsoir, bonjour, c'est une heure un petit peu
entre les deux,
bien,
mais il y a de la couleur, FM,
sur 97.1, le technicien suit en plus, donc c'est bien. Bon, là, on va revenir sur l'actualité du mois de janvier. Alors évidemment, je crois qu'on ne peut pas passer sous silence le drame qui a frappé la France en début d'année avec... Charlie Hebdo et puis l'épicerie Cachère. Alors en Italie, il y a eu une grosse émotion. Beaucoup de vignettisti, c'est-à-dire de caricaturistes italiens, ont fait des petits dessins de soutien à la France. Et nous, on a eu aussi à Inis, en tous les cas, on a eu des messages d'amis italiens. On a eu aussi des dessins que vous trouvez sur le site de Piero Brombin. Mmh. Qui est lui-même designer, dessinateur, qui a tous les talents, peintre. On a Roberto Tombesi qui nous a envoyé un petit mot de sympathie. Tout le monde a beaucoup été touché. Il y a une association aussi, Amici del Piovego, qui est de Padoue, qui est une association écologique qui est pour l'entretien notamment du Pau et du Piovego, qui est autour de Padoue, qui travaille beaucoup sur disons l'assainissement et le maintien de la nature et l'assainissement de ce Piovego, et ils ont fait un bateau complètement dédié aux événements de Charlie Hebdo et de l'épicerie Cachère, en pensée aux amis français, disent-ils. Donc beaucoup de réactions de sympathie et d'émotion. Le nouveau numéro, le premier numéro pour le moment de Sol, qui est sorti après l'assassinat chez Charlie Hebdo, qui a été édité en France, qui n'était pas facilement trouvable d'ailleurs, hein. Il a été tout de suite diffusé en 200 000 exemplaires par Il Fatto Quotidiano, qui est un journal italien. Mmh. Et ces 200 000 exemplaires sont
partis rapidement.
Je connais même des amis du fin fond des Dolomites qui en ont trouvé dans leur village. C'est quand même étonnant. C'est tout à fait sympathique de la part de nos amis italiens d'avoir eu une pensée pour leurs amis français. Ça me permet aussi de faire un petit historique, quelque chose qu'on connaît pas obligatoirement. Vous savez que l'historique, on va pas refaire l'historique de Charlie Hebdo, mais c'était Harakiri Hebdo qui avait été interdit après le bal tragique à Colombelles, la fameuse une, et puis voilà. Et qui était d'ailleurs suite à l'accident du 5-7.
C'est 8-9 jours.
Voilà. Alors après, était devenu donc Charlie Hebdo, mais il y avait le mensuel Charlie Mensuel qui existait, et ce Charlie Mensuel en fait qui a donné à plus tard Charlie Hebdo, ils étaient concomitants puis après tout ça, en fait était inspiré d'une revue italienne qui s'appelait Linus, parce que le nom Charlie en fait c'était un hommage à Charlie Brown, et le personnage Charlie Brown et au créateur Charles Schutz, qui avait imaginé des personnages enfantins qui n'arrivaient pas grand-chose, des peanuts des abusés. Et un des personnages de ce créateur Charles Schutz s'appelait de son prénom Linus. Linus Van Pelt, exactement, qui avait donné à cette revue italienne, cette bande dessinée, revue et bande dessinée, le nom de Linus. Et en fait, il y avait à l'époque, en 1965, elle a été créée, cette BD, il y avait qui existe toujours d'ailleurs, il y avait Diabolique, qui était une revue, enfin une bande dessinée italienne très connue, on va dire une bande dessinée très commerciale, plutôt, enfin de garge, on peut appeler ça, et par opposition un petit peu à diabolique, il y a eu la création de Linus sous l'impulsion d'intellectuels comme Umberto Eco, qui est très connu, hein, ou Oreste Del Buono, et qui donnait l'espace aux dessinateurs et auteurs un petit peu underground, qu'ils soient italiens ou étrangers. Donc il y avait Crépax, il y avait Pratt, Hugo Pratt, Michelucci. Il y avait aussi Crépax, qui était un dessinateur, hein, donc les dessins de Guido Crépax, qui était à la fois érotique et puis qui était passionné de jazz aussi, et comme l'était Cabu.
Cabu, oui.
Et Cabu et Wolinski faisaient quelques chroniques aussi dans cette revue. Et en 2000, dans une interview à Libération, Wolinski disait, en parlant de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, il disait: à l'époque, on n'a fait que copier la formule d'un journal italien de BD qui s'appelait Linus, qui s'appelle toujours Linus d'ailleurs, puisqu'il va fêter ses 50 ans. Enfin voilà, c'est la relation.
C'est l'origine.
La relation entre les deux, en tous les cas, en plus, ils collaboraient, est intéressante à rappeler. Et puisqu'on est dans le rappel, je pense qu'on peut aussi faire un petit clin d'œil à François Cavanna, qui a eu son importance, évidemment, à Charlie Hebdo. François Cavanna, qui est mort, qui est décédé il y a un an, en fait, hein,
oui,
fin janvier,
plus,
non, et à l'âge de 90 ans. Alors, Cavanna, qui était passionné d'écriture, de dessin, de littérature, qui a vécu dans les bouquins, et qui avait été naturalisé à l'âge de 16 ans, Cavanna, puisque son père venait d'Émilie Ronaille, qui était maçon. Bon, c'est toute une histoire qui est beaucoup racontée dans les Ritales, notamment. Et des proches disaient que c'était le plus grand auteur actuel, enfin, quand des proches étaient vivants. Et il y a une bibliothèque à Nogent qui porte le nom de François Cavanna. Donc je pense que c'est bien aussi de rappeler que...
Il y a un lien entre les deux.
Et puis, puisqu'on en est dans la lecture, je crois que ce serait pas mal de relire Primo Levi, qui était un juif italien, qui est notamment son ouvrage « Si c'est un homme », avec tous les événements qu'on a en ce moment. Ça fera du bien de relire cet auteur, qui est un ouvrage remarquable, et puis qui resituerait peut-être certaines choses, disons-nous. Et puis, puisqu'on est encore dans la littérature, alors là, c'est moins dramatique, mais c'est quand même... un sujet qui fait beaucoup parler en Italie, c'est Henri De Luca. Alors Serge, tu nous avais passé une petite interview que tu avais fait
au mois de juin
sur le passage du TAV, enfin du train à grande vitesse, le Lyon-Turin dans la vallée de Suse notamment.
Lorsqu'on avait fait le séjour d'immersion, on avait visité de très loin vu de très loin et de très haut le chantier avec des gens de Notav, et on avait discuté avec eux assez longtemps.
Voilà. Alors, donc, Henri De Luca, il est à leur côté, on va dire, bon, qui est un écrivain très connu, remarquable, qui est un alpiniste aussi remarquable, il a tous les talents, il chante. Et Henri De Luca a dit qu'il fallait saboter le TAV, enfin le train. Donc il a été il devait comparaître là au mois de janvier, mais c'est reporté au mois de mars.
Ouais, 16 mars.
Voilà, au tribunal de Turin pour incitation au sabotage. En fait, c'est la société franco-italienne de gestion,
NTF,
voilà,
oui,
qui a porté plainte contre lui en disant qu'il a incité au sabotage.
Alors, évidemment, enfin, il risque...
évidemment, lui dit qu'il ne parlait pas au sens de sabotage au sens matériel et destruction de matériel, mais il parle de sabotage au niveau intellectuel, c'est-à-dire en sabotage, pour lui, c'est la signification de l'obstruction à un projet, à une loi, et donc c'est une façon pour lui de défendre le droit à la parole, et il dit que quand il parle de sabotage, il ne veut pas dire casser ou...
Oui, il fait la distinction,
voilà, fait
en
la
disant
distinction,
que c'est un point de vue et non pas un acte.
Absolument, ouais. Et il se dit qu'il faut porter la parole pour défendre les opposants au Otave, sachant qu'il y a eu plus de 1000 personnes inculpées hein, sur ce projet. Et j'entendais récemment une chronique où on interviewait un des grands leaders de Otave qui a déjà un certain âge, très décidé, vraiment décidé. Enfin, l'autre jour, il y a quand même beaucoup de manifestations en faveur d'Eri De Luca, hein, parce qu'il est très aimé en Italie en plus, Eri De Luca. Et il y a notamment des groupes de lecture qui lisent des passages
devant le procès.
Son bouquin, La parole contraire, qui parle un peu de tous ces...
Alors, il risque 5 ans, quand même.
Oui, enfin moi, je doute qu'il ait quelque pas, chose. Oui. Enfin, il a toujours dit qu'il ferait ça... Pour lui, c'est rien, il ferait sa peine s'il doit. Ouais, mais j'imagine mal un tribunal... On verra.
Condamné
Eri De Luca. Je pense qu'il risquerait d'avoir quelques mouvements.
C'est vrai qu'après la condamnation de José Bové, qui est allé en tracteur à 1000 personnes à la prison...
Voilà. Enfin voilà, donc c'était bien de le rappeler aussi. Bon, on va faire peut-être une première pause musicale sur Couleur FM. Et on va écouter Stefano Palladini, qui est un chanteur romain, qui compose lui-même ses chansons, mais qui a aussi adapté des poètes italiens et étrangers en musique. Et là, on va l'entendre dans une mise en musique de Liberté de Paul Éluard, qui en italien s'appelle Libertà. C'était le morceau à passer, me semble-t-il.
Exactement.
Sui quaderni di scolaro, sui miei banchi e gli alberi, sulla sabbia e sulla neve, scrivo il tuo nome. Su ogni pagina che ho letto, su ogni pagina che è bianca, sasso, sangue, carta o cenere, scrivo il tuo nome. Sulla giungla del deserto, sui nidi, sulle ginestre, sopra l'eco dell'infanzia, scrivo il tuo nome. Sui miracoli notturni, sul pane bianco dei miei giorni, le stagioni fidanzate, scrivo il tuo nome. Sulle piane e l'orizzonte, sulle ali degli uccelli e il mulino delle ombre, scrivo il tuo nome. Sui sentieri risvegliati, sulle strade dispiegate, sulle piazze che dilagano, scrivo il tuo nome. Sopra il lume che si accende, sopra il lume che si spegne, sulle mie case raccolte, scrivo il tuo nome. Sopra il frutto, schiuso in due, dello specchio e della stanza, sul mio letto, guscio vuoto, scrivo il tuo nome. Su ogni carne consentita, sulla fronte degli amici, su ogni mano che si tende, scrivo il tuo nome. Sopra i miei rifugi infranti, sopra i miei fari crollati, sulle mura della noia, scrivo il tuo nome. Sull'assenza che non chiede, sulla nuda solitudine, sui gradini della morte, scrivo il tuo nome. Sul vigore ritornato, sul pericolo svanito, sull'immemore speranza, scrivo il tuo nome. In virtù di una parola ricomincio la mia vita, sono nato per conoscerti,
per chiamarti libertà.
Stefano Palladini, donc Serge, là tu vas nous parler de l'élection
du président de la République.
Italienne. Puisque nous, ce n'est pas avant 2017.
Exactement. Donc là, le président sortant, qui était Giorgio Napolitano, avait rempilé, si on peut dire, en 2013, pour 7 ans.
Et pour faire plaisir un petit peu.
Et pour faire plaisir, et puis parce que la succession n'était peut-être pas tout à fait prête.
Ni évidente.
Alors il est parti, il avait 88 ou 89 ans quand même. Et donc, il a démissionné en décembre et la succession était donc prête. Alors, l'élection en Italie se fait au scrutin indirect, c'est-à-dire que c'est les députés, les sénateurs et puis des représentants des régions qui se mettent tous ensemble et qui élisent le président.
Ce sont des sortes de grands électeurs.
Voilà, c'est ça. C'est une sorte de congrès.
Exactement.
Une sorte de congrès, quoi. Les pouvoirs sont vraiment différents avec ceux du président français, puisque son rôle est surtout honorifique, bien qu'il soit garant de l'unité du pays. Le seul acte vraiment qu'il fait, c'est de nommer le Premier ministre, bien qu'il soit président du Conseil de la magistrature et chef des armées. Donc le chef des armées qui dirige pas la politique du pays, ça fait un peu drôle, quoi. Mais quand même, il promulgue les lois et il a tout pouvoir pour ne pas promulguer une loi si elle est contraire à la Constitution. C'est une fonction pour laquelle il touche 210 000 euros par an et il ne peut pas être jugé pour ses actes. Il peut être poursuivi seulement pour haute trahison ou non-respect de la Constitution. Alors Napolitano, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui un homme politique, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui était de Naples, donc qui a beaucoup fait pour le Sud, qui a eu un passage assez long, je crois, avec le Parti communiste italien.
Absolument.
Hein, donc c'était, bien que la fonction soit honorifique, c'était pas n'importe qui, quand même. Alors son successeur, c'est Sergio Mattarella. Avant de le présenter, il faut quand même parler de son élection, puisque Renzi avait demandé
le président du conseil
l'équivalent du Premier ministre, c'était son candidat, et il avait demandé à tout le centre-gauche de voter blanc pendant 3 tours, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de majorité pendant 3 tours, et au 4e tour... de voter pour Mattarella, parce qu'au 4e tour, la majorité est plus faible. Qui fait qu'il a été élu sans le soutien du mouvement 5 étoiles et sans le soutien de Berlusconi. C'est
parce que sur les 3 premiers tours, comme tu le disais, il faut avoir 2/3 des votes pour être élu.
Voilà, c'est ça. Et après c'est la moitié.
Absolument. Ouais. Donc il a été élu avec plus de 600 voix.
Oui, 665.
Voilà.
Donc Mattarella est de la Sicile, donc après un Napolitain, c'est un Sicilien qui a 73 ans, et il est décrit comme quelqu'un d'un peu austère. Et alors, son père était déjà dans la politique, puisqu'il faisait partie de l'Assemblée constituante en 1946, je crois, quelque chose comme ça.
Il était un homme de la démocratie chrétienne.
Et son frère était aussi président de la région Sicile.
Absolument.
Et s'est fait exécuter en sortant de la messe en 1980.
Par la mafia.
Et alors, donc, c'est ça, je pense, que, d'après ce que j'ai pu lire, qu'a été le déclic pour Mattarella, de son entrée en politique, qui s'est fait 3 ans plus tard. Donc, il était député sous les couleurs de la démocratie chrétienne.
Absolument.
Et tout au long de son parcours, donc, il a été élu en 83, la première fois. Donc, tout au long de son parcours, il a progressivement passé d'une démocratie chrétienne au centre-gauche.
En fait, démocratie chrétienne, il était vraiment
marginal,
encarté à la démocratie chrétienne, oui. Mais il a quitté la démocratie chrétienne par opposition à une loi que faisait passer sur les médias.
Sur les médias, évidemment. C'est-à-dire que quand il était ministre en 90, il a démissionné parce que le gouvernement de l'époque avait passé une loi pour que les télévisions privées soient que financées.
Nombreuses lois berlusconiennes.
D'ailleurs, 4 ans avant que Berlusconi ne soit là.
Et donc après, il s'est rapproché plutôt effectivement du parti de Renzi, le PD, mais il n'est pas encarté.
Il est sympathisant. Donc il y a ce parcours. C'est aussi un intellectuel qui était professeur de droit à Palerme où il est né, et avocat aussi. Mmh. Et comme je disais tout à l'heure, bien que la fonction soit honorifique, c'est pas n'importe qui quand même. Non, il a un parcours assez clair, attachant, clean. Voilà.
Et il était là en ce moment à la Cour constitutionnelle, enfin juge à la Cour constitutionnelle. C'est lui qui avait aboli le service militaire obligatoire.
Voilà. Aussi, et une loi pour diminuer les pouvoirs du président de la République.
Oui, et puis pour essayer d'amener une part de majorité pour essayer d'apporter un peu de stabilité dans le
gouvernement.
La proportionnelle complète, c'est démocratique et quasi ingouvernable. Ouais. Quoi. Mais c'est plutôt un gars rigoureux, on va dire. Et puis, on n'entend quasi rien à part...
Exactement, de ce que j'ai lu, c'est rien de négatif.
Alors il y avait une belle bataille, parce que chacun voulait mettre ses pions en avant, et Renzi en appelait à la crédibilité, à sa crédibilité, à celle de son parti, et le fait qu'il soit élu lui fait plaisir, et en plus c'est un vrai opposant à un monsieur dont on n'a plus trop envie de parler. Voilà. Puisqu'il est sicilien, on va lui faire plaisir en passant une chanteuse sicilienne qui s'appelle Carmen Consoli, jeune chanteuse. Et on va l'entendre dans un titre, Mandaci una cartolina. Écris-nous, envoie-nous, adresse-nous une carte postale. Alors peut-être que c'est un message qu'elle envoie au nouveau président.
Au nouveau président, oui.
Giorni in cui potevi partire, perché hai pensato proprio a lunedì. Gli uccelli cantano l'estate alle porte, tempo di mare, di granite al limone. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato senza giri di parole. Viva l'Italia, il calcio, il testosterone, gli inciuci e le buttane in preda all'ormone. A noi ci piace assai la televisione, proprio l'oggetto dico esposto in salone. Chissà quale amara considerazione avresti concepito in virtù del pudore. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciugabiato tra le braccia di un tramonto. Tra tutti i giorni in cui potevi morire, perché hai pensato proprio a lunedì. Strade caotiche, litigi agli incroci, quanti cafoni su veicoli e scene. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato in questa triste occasione. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciuga canticchiando una canzone romantica.
mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, mentre stai sul bagno asciuga e cogli con stupore un nuovo giorno.
Carmen Consoli, mandaci una cartolina. Alors tout à l'heure, Serge, tu vas nous faire la surprise de la recette habituelle en fin d'émission.
Une recette spéciale.
Spéciale.
Alors comme toutes les recettes, je les ai faites moi-même avant.
Ah oui, éprouvé. Alors par contre, est-ce que tu es allé on t'a pas invité au salon, au championnat du monde de la gastronomie
non,
à Eurexpo?
Non, j'étais hors concours.
T'as été hors concours, oui, parce que... Ouais. Il y a des niveaux qui sont supérieurs et il faut laisser la place à tout le monde.
Exactement, place aux jeunes.
Voilà, alors il y avait notamment la Coupe du Monde de la pâtisserie. Il y avait beaucoup de monde, hein, et c'est pire qu'un match de foot, ce Syrah-là. Hein. Et le Peter Pan a fait gagner l'Italie. C'est-à-dire que la Coupe du Monde de la pâtisserie a été remportée par les Italiens avec un... Alors, on est à la radio, donc le côté visuel est difficile à expliquer.
La semaine prochaine, c'est du mime.
Mais donc, nos amis italiens ont constitué un plat, pâtisserie, enfin un gâteau plutôt, j'ai cherché le mot, donc à la gloire de Peter Pan. Et ils ont remporté la médaille d'or, le Japon la médaille d'argent, les États-Unis la médaille de bronze.
La France est avant-dernière.
Je ne sais pas quelle est sa place, parce que là, il n'y a que les trois premiers, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, hein, puisqu'on avait même les Philippines, le Guatemala, l'Argentine, voilà, alors, bon, il y avait quand même, bon, la France avait été championne du monde en 2009, hein. Et les États-Unis, eux, ils ont représenté un gâteau sur le thème du western, et les Italiens, donc Peter Pan, mais il a failli, là, il y a eu un côté sympa aussi des organisateurs, parce qu'au moment de présenter leur gâteau, les trois chef pâtissier, donc il fallait desservir à l'assiette le jury international, et sur le gâteau il y avait un crocodile, et patatrac, la queue du crocodile s'est cassée au moment d'aller la servir. Donc comme il y avait des passages minutés, les organisateurs ont accepté, ont même proposé de faire passer une autre équipe du temps de la réparation de la queue du crocodile. Allez savoir combien
opération.
De temps il faut pour réparer la queue d'un crocodile, surtout en pâtisserie. Et donc c'est l'Égypte qui est passée, et pendant le passage de l'Égypte, il a fallu... replacer le crochet des capitaines.
C'est comme les lézards, elle repousse toute seule.
Sur une colorette en gaufrette et un tube de meringue, enfin bref, avec du citron, de la côte amalfitaine. Enfin, tout ça s'est bien terminé pour l'Italie, qui a gagné la médaille d'or. Puis ils gagnent un prix aussi, double prix, là, ils ont gagné le vase de Sèvres.
Ah, c'est pas rien.
Le vainqueur, c'est quand même 21 000 euros. Hein.
Donc, ah oui, quand même.
Ça vaut le coup d'aller... encore plus peut-être dégusté. Hein.
Ouais.
Voilà, alors ça c'était un petit clin d'œil après les nouvelles de début d'émission. C'est plutôt un petit sourire bien sympathique. La pâtisserie, ça n'a jamais fait de mal à personne en quantité raisonnable, ouais. 100 ans. Alors, on est entré dans la période du carnaval, notamment. Alors, tout le monde connaît le carnaval de Venise, bien sûr, initié, participe quelquefois. Mais en fait, en Italie, il y a aussi beaucoup d'autres carnavals, et notamment le carnaval de Bagolino, où on va se rendre là pour Mardi Gras, lundi et Mardi Gras. Alors, Où est Bagolino?
Où est-ce que c'est
Bagolino? Où est Bagolino? C'est pas très connu. Hein. Alors Bagolino, c'est un petit village de Lombardie, à 800 mètres d'altitude, et qui est à 3 km de la limite avec le Trentin. Autrement dit, on est aux confins de deux régions. Alors c'est un village qui est connu pour son carnaval, puisque les premiers carnavals répertoriés datent de 1500 et des poussières. Et à l'époque, on a trouvé trace de récompenses d'une troupe qui venait s'y produire et qui était récompensée en fromage, parce que le fromage de Bagolino, le bagos, d'ailleurs le carnaval s'appelle le bagosso, est un fromage très prisé d'appellation contrôlée. Et donc cette petite commune, la spécialité, c'est ce bagos. C'est une commune qui est pas loin du lac de Garde et en haut
du lac d'Idro,
voilà, et pas très loin du lac de Garde en fait, et pas loin de Brescia. Brescia qui est une ville méconnue mais qui a le complexe San Salvatore e Santa Giulia est quand même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis c'est à côté de Brescia, il y a tous les vignobles de Franciacorta, la petite France, Franciacorta. Qui fait notamment, qui fait de très bons vins, notamment un vin en méthode champenoise de très bonne qualité.
C'est vrai que Brescia, pour nous, est surtout connu par ses panneaux qui sont sur l'autoroute.
C'est une ville intéressante. Hein,
quand on va à Venise.
Où finalement, les gens ne passent pas.
Ouais. Hein.
Alors à Bagolino, encore moins. Hein. Mais nous, on va y aller. Et donc là, donc c'est un carnaval où se produisent les ballari et les masquers sont les personnages les plus importants. Donc, ça, les ballari, c'est ceux qui dansent évidemment sur les places, dans les rues, en jouant des différentes musiques. Ils ont des costumes très chatoyants, élégants, fait un feutre couvert d'un ruban brodé, de chaînes, de broches d'or. Et puis évidemment, ils sont masqués avec un masque très peu expressif et en couleur ivoire. Et les masquers, eux, sont des personnages. En fait, il y a deux types. Hein. Il y a les ballari et les masquers. Et les masquers, c'est un peu la richesse et le peuple. Mmh. Hein. Et les masquers sont des personnages grotesques avec des masques effrayants. Et eux, ils déambulent parmi la foule. Ils ont une voix un peu de fossette. Ils ont des sabots aux pieds et ils sont habillés eux vraiment sobrement. Et puis ils apostrophent par jeu, bien sûr, la foule. C'est-à-dire, ils viennent provoquer
Pas tout le monde y participe.
Voilà. Et donc, il y a une ambiance générale qui est plutôt sympa. Bon, on danse beaucoup, on écoute beaucoup de musique, et notamment des violons, parce que c'est le paradis du violon. Et la tradition de Ponteca, Faro et Bagolino, qui sont ces deux communes de cette région, c'est le violon.
Alors, le violon, c'était plutôt Crémone.
Oui, alors le violon classique, c'est Crémone, mais là, le violon populaire, bien sûr, Crémone n'est pas très loin non plus. Hein.
Non,
il y a 50
km. 60.
Hein. Et là, il y a une tradition instrumentale du violon qui est impressionnante. Il y avait des écoles de violon. Il y en a encore plusieurs qui jouent. Et d'autres, il y a d'autres joueurs de musique, évidemment, d'autres musiciens à ce festival. Mais le violon supplante tout le reste. Et ailleurs, par exemple, on voit la clarinette, l'harmonie, l'accordéon, tout ça. Mais là, c'est plus discret. Et alors là, c'est le festival, on va dire, officiel, le carnaval, pardon, officiel. Mais il y a aussi, on joue aussi là. Alors ceux qui viennent jouer, danser, sont des troupes invitées. Et par contre, dans les bars, les hosteries, il y a un côté off, on va dire.
Un off, oui. Voilà.
On peut aller jouer. Alors, à écouter ce qui se fait, par exemple, dans les rues pendant ce carnaval, on va écouter une scottish par une compagnie Sonadour de Ponteca Faro, à côté de Bagolino.
Thank you.
Voilà, on était à Pontecafaro. Tu parlais de Crémone tout à l'heure et de
violons.
La ville de Stradivarius, évidemment, où il y a plus de 200
facteurs,
enfin luthiers, qui fabriquent, dont deux Français d'ailleurs, qui fabriquent des violons. Mais là, il y a aussi des luthiers, notamment un luthier bien connu à Pontecafaro encore, qui fabrique un violon donc plus populaire,
plus adapté,
on va dire. Voilà, alors ce festival dure plusieurs jours. Et il commence le samedi, il se finit le mardi soir. Mais bon, les premiers jours sont le gros de la fête, disons, qui est surtout le lundi et le mardi gras. Voilà, donc en Lombardie, à deux pas du Trentin. Encore une fois, les troupes masquées vêtues sont des troupes invitées et du village en général ou des communes environnantes. Et les spectateurs peuvent venir comme ils veulent. Alors les troupes officielles sont masquées avec des costumes d'hommes ou de femmes, mais sont que des hommes. Par contre, c'est une tradition, hein, sauf chez les enfants. Par contre, chez les spectateurs, eux, s'ils veulent se déguiser, ils se déguisent, se masquer, ils se masquent. Il y a rien de tout est libre en fait. Hein. Voilà, donc on va faire connaissance avec ce petit carnaval de Bagolino qui est bien connu. D'ailleurs, il y a M. Feuillet là, qui a écrit sur le carnaval dans la région lyonnaise qui fait référence à ce carnaval de Bagolino. Voilà, alors puisqu'on est dans les festivités où il y a quelques manifestations liées ou pas d'ailleurs directement à Inis. Bon, on a une des membres fondatrices d'Inis, Monique Despréaux, puisqu'elle était parmi les 11 membres fondateurs en 1989, qui expose jusqu'au 14 février à l'office de tourisme de Bourgoin-Jallieu. Donc elle expose ses propres œuvres, elle s'adonne complètement à la peinture maintenant. Et allez-y parce que c'est quelqu'un qui a plutôt du talent et elle fait des choses diverses et bien intéressantes. Alors vous pouvez y aller le 12, le 13, le 14 février, jeudi, vendredi, samedi, le matin, l'après-midi, de 9h à 12h ou de 14h à 19h, et de 13h30 à 19h pour le vendredi et le jeudi. Le lundi, c'est 13h30 à 19h. Voilà, Monique Despréaux, donc, à l'office de tourisme de Bourgoin-Jallieu. Le 28 février, à 14h30, à la librairie Majolir, vous aurez une rencontre animée par Jean Guichard autour de Marinetti. Alors Marinetti, c'est le grand inspirateur du futurisme en Italie. Là aussi, c'est une rencontre qui mérite le déplacement. Le vendredi 6 mars, en collaboration avec toujours la librairie Majolir, et il y aura donc Inis et Majolir, des lectures de femmes qui vont, dames donc, qui vont lire des œuvres, des extraits d'œuvres d'écrivains français, italiens et d'autres nationalités. Ce seront des œuvres lues et chantées, et cette manifestation se déroulera, ces lectures se dérouleront le vendredi à 17h30. Vous verrez sur le site d'Inis tout le détail de la programmation où le choix des textes est en train d'être déterminé. C'est pour ça que j'ai pas le détail complet aujourd'hui. Mais en allant sur le site d'Inis, www.italinorizer.com, vous aurez toute l'information. Et puis, le 7 mars, on en a déjà parlé dans notre émission précédente, nous avons notre troisième édition de Chansons de femmes à la salle du Conseil Général de Bourgoin-Jallieu, à 20h, donc c'est vers le prolongement du parc des Lilates. Alors, on vous avait présenté nos chanteuses la dernière fois. Il y aura donc Evelyne Parouti, qui est une Française qui vit depuis 30 ans en Vallée d'Aoste. En fait, pour être plus exact, un de ses parents est français et l'autre est italien. Et elle écrit beaucoup, elle écrit soit des romans, soit des poésies, et elle chante aussi, c'est une femme de lettres, donc active dans différents milieux artistiques, domaines artistiques, elle est bien connue dans le monde culturel en Val-de-Tain, Et elle a publié un CD il y a 2 ans, là, qui est très intéressant, qui s'appelle « Moi par moi », avec un jeu de mots « moi et moi i » et « moi et moi yes ». Et puis Maura Susana, qui est la grande chanteuse du peuple, on peut dire, valdôtain, parce qu'elle parle beaucoup de sa région, beaucoup de chroniques sociales, beaucoup d'écologie, mais très, très amoureuse de sa région. Elle chante, on l'avait dit la dernière fois, en italien et en franco-provençal. Mais elle porte ses interprétations à l'étranger. Hein. Elle est invitée en Espagne, en France, évidemment dans les régions limitrophes, à la Valdôse, côté Haute-Savoie et autres. Et c'est vraiment une chanteuse très intéressante que je vous conseille bien sûr de venir découvrir. Alors avec Evelyne, elles vont probablement faire un spectacle unique où elles s'interchangent parce qu'elles ont beaucoup l'habitude de chanter ensemble. Et on les avait, sinon découvert, du moins on avait eu la confirmation de leur talent lors d'un voyage en 2011 qu'on avait fait en Vallée d'Ost et où on avait organisé avec nos amis italiens une soirée autour de Georges Brassens, autour du patois franco-provençal. On avait emmené le trio Florimond ici et l'Omagno Terrible. Malheureusement, deux de ses membres, Serge Ruby et René Beret, depuis sont décédés. Ils nous manquent beaucoup. Et bon, ce soir-là, il faudra qu'on pense beaucoup à eux d'ailleurs. Donc, on va écouter Maura Susana. On va l'écouter dans un morceau qui s'appelle Danzeremo. Nous danserons. Et donc Maura Susana, que vous découvrirez à Bourgoin, parce que vous allez tous venir, le samedi 7 mars à 20h à la maison du Conseil Général. Mi-février, on mettra les billets en vente. Et puis, en attendant de la voir et de l'écouter avec sa compagne Evelyne Parouti, on va l'écouter sur Couleur FM 97.1. Donc Danzeremo.
Quando un tratto nella vita ti fermerai a pensare se hai vissuto oppure no, forse allora ti chiederai dove sono gli anni che tu vivevi per me. Quando bianca la prima neve calma cadrà a coprire l'ultima rosa nata per te, forse allora tu sentirai in silenzio i passi miei verso di te. Danzeremo una nuova danza senza confini in libertà, danzeremo senza paure, la nostra vita ci apparterrà. Danzeremo una nuova danza senza confini in libertà, danzeremo la nostra vita ci apparterrà. Quando l'ombra della notte ti avvolgerà, nel silenzio il cuore ti parlerà, forse allora ti ascolterai e mentire no, non potrai, e tu lo sai. Quando un giorno troppo stanca ti accorgerai scivolate la tua vita senza una mai, le mie mani saranno lì a tenerti forte perché voltarti dovrai. Scopriremo nuovi colori ed il sorriso si accenderà, i nostri occhi senza confini libertà. Danzeremo senza paure, la nostra vita ci apparterrà. E danzeremo una nuova danza senza confini libertà. Danzeremo la nostra vita ci apparterrà.
Voilà. Alors maintenant, nous allons parler cuisine. Cuisine, une recette. Mais avant de vous donner la recette, je voudrais vous parler du salon Prime Vert qui va avoir lieu les 20, 21, 22 à Eurexpo. Et comme les années précédentes, nous connaissons trois agriculteurs qui exposent à Prime Vert. Et ils nous ont envoyé leurs places gratuites. Donc, si vous voulez des entrées gratuites de Prime Vert, vous pouvez venir dans les locaux de l'INIS, 27 rue Beauvais-Lapierre à Bourgoin, le mercredi de 17h à 19h.
Aux heures de bibliothèque.
Aux heures de bibliothèque. Mmh. Donc, ces trois agriculteurs qui partagent le même stand, ils sont au stand L203. Donc, vous pouvez aller les voir.
Et ce sont toujours les
mêmes, voilà. C'est Paola et Fabio Grazelli qui, eux, font du fromage. Alors, ils sont ils font du très bon fromage, mais ils sont rive gauche du Pô. Le parmesan est rive droite, donc ils font pas de parmesan, mais ils font du très bon fromage. Ennio Ferretti, lui, est viticulteur à Carezzano, qui est à côté de Tortona.
Pays de Fostocopi.
Et il a donc du vin, mais c'est du vin de garde. Il faut surtout pas le boire avant l'année.
Et il est bon.
Qu'il vous dira. Et il est très bon. Et surtout, il a un vin. Enfin, il fait du vin rouge et vin blanc. Et son vin blanc, c'est un cépage local qui s'appelle Timorasso.
Qui a été ressorti, hein, je crois.
Voilà. Donc, c'est des vins bio, bien sûr, puisqu'ils sont à Prime Vert, ainsi que Paola et Fabio pour leur fromage. Et enfin, Raffaella Firpo, qui fait des condiments, voilà. Non, c'est des condiments.
Ah, c'est
des condiments en conserve et à base de poivron.
Oui,
le poivron de Capriglio que l'on avait, Raphaël, qu'on avait interviewé lorsqu'on avait fait l'émission sur Slow Food.
Crème de noisette, non, c'est pas elle.
Non, c'est pas la région.
Non.
Donc, Ennio, lui, est vers Tortona, et Raphaël, là, est à côté de Turin, limite du Montferrato.
C'est la région, hein, la crème de noisette, mais c'est pas elle, c'est une autre.
Voilà, donc, allez les voir à Prime Vert après avoir recueilli auprès de l'INIS les entrées gratuites.
Donc on rappelle les dates quand même.
Alors les dates, c'est le 20, 21 et 22 février.
Tout à fait.
À Lyon, à Eurexpo. Alors la recette dont on va parler aujourd'hui est une recette qui est difficile à faire, qui est longue, mais qui est artistique. Et ça vaut vraiment la peine de
la déguster.
De la déguster et de la faire. Il s'agit des tortellini de zucca.
Oula, la courge alors.
Zucca, c'est du potiron, et le mieux même, c'est de mettre du potimarron dedans, qui est nettement meilleur. C'est une recette de Mantova. Donc, Mantova est une ville de 50 000 habitants, à peu près à 180 km au sud-est de Milan, un peu nord-ouest de Crémone, à 60 km. Et c'est une ville assez riche. Je ne connais pas, mais je suis passé sur la tangentiale le périphérique.
Belle ville.
Et côte à côte, il y a un concessionnaire, je crois, Maserati et Jaguar. Donc, on peut penser que c'est une ville assez riche. Mmh. Alors, c'est
disons qu'il y a quelques moyens.
Tortellini de zucca, c'est un plat qu'on ne fait pas tous les jours, vu le délai de préparation, et que l'on mange essentiellement la veille de Noël. Alors, la configuration générale de ces pâtes, ce sont des styles, on va dire, raviolis, donc une pâte et une farce. Et le secret de la recette réside dans un équilibre savamment dosé entre du sucré salé, déjà ça c'est pas simple à faire, mais en même temps fait sucré salé et aigre doux. Et si, ce qui donne le côté aigre, c'est de la moutarde de Mantova.
Qui n'est pas de la moutarde?
Alors la moutarde, bien sûr, ce n'est pas de la moutarde. La moutarde, ce sont des fruits confits. Et une fois qu'on a fait les fruits confits, il y a un sirop de sucre. Mais dans ce sirop de sucre, il y a de l'huile essentielle de graines de moutarde, ce qui lui donne un petit côté acidulé. Alors, donc la partie pâte, bon, c'est assez simple, hein, 100 grammes de farine, un œuf. Je vais vous donner des proportions pour 6. Mais là, moi, je l'ai fait, cette recette. Je l'ai fait deux fois, mais je ne suis pas encore au point. Il faut la faire plusieurs fois. En gros, généralement, on met 100 grammes de farine et un œuf par personne. Là, il faut en mettre un peu moins, peut-être, parce qu'il y a la farce. Donc, il y a 500 grammes de farine et 5 œufs. Alors, les ingrédients pour la farce. 500 g de potiron, voire mieux de potimarron, 100 g de moutarde des Mantova. Alors, il y a de la moutarde, moi j'en avais acheté à Voghera, qui est un peu vers Piacenza. Mais 100 g d'amaretti, alors les amaretti, c'est des macarons. Hein. Un œuf qui sert à lier, de la noix de muscade et du parmesan. Donc ça, c'est pour toute la partie farce. Alors, dans toutes ces proportions, je disais que c'est une recette qui est longue à faire, mais il faut la faire plusieurs fois avant de trouver le bon équilibre.
Comme souvent.
Mais là, c'est plus dur que les tagliatelles, quand même. Mmh. Alors, la préparation, donc la pâte, on mélange sa farine, ses œufs, on passe ça à la machine. Et on fait des bandes de 9 cm et ensuite des rectangles de 9 cm sur 6. Dedans, on va mettre la farce et ensuite on replie, ce qui fait des pâtes qui ont une allure de triangle. Alors, première opération, c'est cuire le potiron. Donc, pour éviter que ce soit gorgé d'eau, on le fait cuire au four à 220 degrés. Et là, on arrête le four quand c'est cuit. C'est-à-dire qu'on écrase un peu avec une fourchette, et si ça s'écrase, bah, c'est que c'est cuit. Bon, il faut compter, je pense, un quart d'heure, quelque chose comme ça. Et il faut laisser refroidir dans le four. Ensuite, on mélange... alors, la moutarde de Mantova, ça se présente quand on l'achète sous forme de fruits confits. Alors, je pense que peut-être qu'à Bourgoin, on trouvera pas, mais dans des magasins de grossistes...
Lyon-Grenoble.
Sur Grenoble, on doit trouver, ou le mieux, c'est d'aller la chercher à Mantova.
Exactement. Puis, à l'occasion d'un achat de
Maserati. Voilà, voilà. Ouais. Vous pouvez arrêter à Stagno-Lombarde, qui est à Crémone, et puis acheter du vin et puis du poivron. Donc, cette moutarde, ce sont comme des fruits confits. Donc, il faut la couper au couteau assez fin. Et puis, on finit d'écraser avec une fourchette. Donc, on mélange le potiron cuit, la moutarde hachée et le parmesan. On met un œuf et puis de la noix de muscade. Mais il faut dépasser la dose d'assaisonnement de la noix de muscade. Hein. Faut pas en mettre 100 grammes, bien sûr, mais faut en mettre pas mal. Et puis, on mélange bien tout ça et on le laisse au frigo 24 ou 48 heures pour que les arômes se mélangent. Donc, faut s'y prendre à l'avance. Alors, ensuite vient le façonnage. On a nos morceaux de pâte de 6 cm sur 9. Avec une petite cuillère, on met un peu du mélange au milieu. Et on replie selon une diagonale. Alors, ce qu'il est important de bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'air dedans. Donc, de bien commencer par aplatir autour de la pâte et de finir sur les bords. Et pour les souder, on trempe son doigt dans l'eau et on passe un petit coup sur le bord, on appuie et ça soude. Par contre, il faut bien nettoyer le doigt à chaque fois.
Oui, parce que s'il a la moindre attache...
Ouais, ça colle pas bien après. Alors ensuite, la cuisson. Donc ça se cuit bien sûr à l'eau bouillante, entre 10 et 12 minutes. Et alors, moi, je goûte. Et alors, pour goûter, alors il faut pas en manger un entier, parce que en gros, ce sont des pâtes qui sont assez grosses. Il faut compter de 11 à une douzaine, en gros, par personne. Donc, si on goûte 4 fois, on n'a plus faim après. Donc, moi, j'en sors une et je coupe un petit morceau là où c'est plié. C'est-à-dire qu'il y a deux épaisseurs tassées et c'est là où c'est le plus long à cuire. Donc, si c'est cuit là, c'est cuit ailleurs. Donc, une fois que c'est cuit, on sort ces pâtes de l'eau avec une écumoire. Il ne s'agit pas de tout renverser parce qu'elles peuvent se crever. Donc, on les sort délicatement de l'eau. Moi, je vide l'eau de la marmite et je remets mes pâtes dedans de manière à ce que... puisque les pâtes, en général, ça refroidit très vite. Donc, si on les met dans un plat, elles vont passer la chaleur au plat. Et après, dans l'assiette, on les mange, c'est froid. Donc, moi, je les remets dedans. Je les remets une minute sur le feu pour récupérer la chaleur perdue. Un petit peu de parmesan dessus. Un peu de beurre. Alors, dans les recettes que j'ai vues, ils disent de mettre beaucoup de beurre. Mais enfin, trop de beurre tue le beurre, je trouve. Et on met un peu de beurre.
Après, tout le goût, en tous les cas, s'il y en a trop.
Et puis, le mieux, c'est de faire chauffer les assiettes et ensuite de servir dedans. Alors... J'insiste sur le fait que c'est très long à faire, mais ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, quand on a fait la première fois, on trouve qu'on sent pas assez les macarons, alors qu'on sent pas assez la moustarde, ou qu'il y en a trop. Donc, il faut
équilibrer.
Bien noter un petit peu ce que l'on met à chaque fois. Et puis, après, donc, ça dégage votre recette de tortellini al di zucca.
Alors, est-ce que la difficulté ne réside pas dans le fait que la courge, même cuite, c'est quand même quelque chose, tu parlais d'éliminer tout ce qui est... Il ne faut pas que ça soit trop gorgé d'eau,
oui,
effectivement.
Oui.
La difficulté n'est pas là-dedans. C'est-à-dire d'avoir une courge
si on la fait cuire au four, ça doit aller. Moi, bêtement, j'avais fait cuire à l'eau. Hein, mais la prochaine fois...
pour l'avoir vu, mais je préfère presque encore, je suis plus sûr quand c'est bien fait de la manger que de la faire. C'est vrai que c'est très difficile.
C'est difficile à faire, hein, mais ça, moi j'en ai mangé chez une amie à Crémone dont la mère est de Mantova. Donc j'ai dit, il faut faire ça.
Bien.
Voilà, et bien, bon appétit.
Merci, bon appétit. On va prendre congé sur Couleur FM de 97.1. On va se réentendre le mois prochain. Et puis, merci Laurent. Laurent qui a été à la hauteur.
Ah, vraiment à la hauteur.
Comme d'habitude. Ouais, ouais. Merci et bonne soirée, bonne semaine, bon mois à tout le monde.
Et au mois prochain, au revoir.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.